Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos traversées ça et là de quelques spasmes de rire qu'on doit essentiellement à la verve comique d'Eva Rock et Céline Dacosta, les Eddie et Patsy du News, comme les surnomment les fans de la série absolument fabuleux. Deux femmes des années 80 certes, mais sachant rester dignes.
Non, les pompiers de Paris sont quand même pas mal, arrête.
Il y en a qui viennent à la salle de sport.
Ah, je crois que t'allais dire, il y en a qui viennent tout à l'heure. Tu m'as un super, quelle bonne idée.
Heureusement, Debout les copains, c'est aussi Fabrice Dalméda. Le monsieur Histoire d'Europe 1 ce matin, alors que la justice belge doit rendre une décision sur la fille légitime du roi Albert II, Fabrice revient sur la longue histoire des enfants illégitimes dans la royauté belge.
Merci d'écouter Europe 1 ce jeudi 16 mai. Excellent réveil, il est 6h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 16 mai. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
L'anesthésiste de Besançon fixé sur son sort aujourd'hui. Il pourrait de nouveau être mis en examen pour empoisonnement. Les élections européennes, Nathalie Loiseau et Jordan Bardella se sont affrontées hier soir sur BFM TV alors que leurs listes sont au coude à coude dans les sondages. Et puis le premier film français en compétition au Festival de Cannes était présenté hier soir. Les Misérables de l'Adjeli, film consacré aux banlieues.
Europe 1.
Depuis mardi matin, Frédéric Péchier est interrogé par les enquêteurs de la police judiciaire de Besançon. 48 heures de garde à vue. L'anesthésiste pourrait de nouveau être mis en examen pour des empoisonnements ce matin. Il est déjà poursuivi pour 7 cas, dont 2 mortels. La question est de savoir combien de cas seront retenus cette fois. L'enquête a révélé que parmi les possibles victimes du docteur Péchier figurait un petit garçon de 4 ans qui, par chance, a survécu. Pierre de Cossette.
Au départ, c'est une intervention chirurgicale tout à fait banale, les amygdales. Mais ce jour-là, en 2016, rien ne se passe comme prévu. Le cœur du petit garçon s'arrête de battre un quart d'heure après son entrée au bloc. Le docteur Péchier arrive à la rescousse et le ranime une fois, puis une seconde, quelques minutes plus tard. Le cœur du garçonnet repart. Aujourd'hui, Teddy se porte bien, mais ses parents, toujours très marqués, ne peuvent s'empêcher de voir dans ce qu'il s'est passé le scénario de l'anesthésiste qui surgit tel le héros, hypothèse la plus fréquemment soulevée pour expliquer le possible comportement criminel du médecin. Parmi la petite quarantaine de cas retenus par la PJ de Besançon, après 2 ans d'enquête, figure donc l'histoire terrible de ce petit garçon qui n'avait pas de raison, selon les expertises, de connaître une telle alerte. Des expertises trop incomplètes néanmoins pour savoir s'il a pu faire une réaction à un empoisonnement. C'est donc le juge d'instruction qui décidera si ce cas précis peut être imputé à Frédéric Péchier, dont le dossier risque sérieusement de s'alourdir d'ici ce soir.
Pierre de Cossette pour Europe 1. Une 6e personne interpellée hier en Alsace dans l'enquête sur les armes détenues par l'auteur de l'attentat djihadiste du marché de Noël de Strasbourg. Attentat qui avait fait 5 morts et 11 blessés le 11 décembre dernier.
Sans surprise, Nathalie Loiseau et Jordan Bardella se sont opposés de bout en bout lors d'un débat télévisé hier soir.
Oui, débat sur BFM TV où les têtes de liste LREM et Rassemblement National ont campé sur leur position. Les deux listes sont au coude à coude dans les sondages à 10 jours du premier tour des européennes. Virginie Riva.
Les élections européennes sortent de match retour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est clairement l'enjeu pour Jordan Bardella.
C'est la première élection du quinquennat. Les Français, qui sont descendus nombreux dans les rues du pays, doivent profiter désormais de ces élections européennes pour se faire entendre.
Jordan Bardella, qui face à une Nathalie Loiseau assez posée, passe rapidement à l'attaque.
Vous avez été ministre des Affaires européennes pendant plus de 2 ans. On n'a jamais entendu parler de vous. À quel moment vous avez défendu les intérêts de la France en 2 ans ?
Vous avez dû vraiment passer très peu de temps au Parlement européen, mais c'est normal, vous y avez passé 4 mois.
La stratégie de Nathalie Loiseau, c'est de démontrer que le RN veut en fait sortir de l'Union européenne.
Mais quand vous voulez sortir de Schengen, quand vous voulez sortir des accords de libre-échange, ça veut dire que vous sortez de l'Union européenne.
C'est juste qu'on défend 2 coopérations européennes différentes. Mais je vous ai déjà dit non, Madame Loiseau.
Ben oui, mais tout ce que vous dites...
Vous pouvez le répéter en boucle, ça n'en fera pas une vérité.
2 conceptions irréconciliables de l'Europe s'opposent.
L'Europe, c'est avant tout une civilisation. Ça résonne plus comme la démocratie athénienne que comme la technocratie bruxelloise, et c'est peut-être ce qui nous oppose.
L'Europe, je n'oublie rien de ce que nous lui devons. Je n'oublie pas 70 ans de paix.
Au final, pas de grand gagnant, sinon une. L'Europe, les candidats ont vraiment parlé d'elle.
Virginie Riva, le couple franco-allemand égratigné par la chancelière Angela Merkel. Dans une interview, elle met en lumière les différences de mentalité entre elle et le président français. Elle reconnaît avoir des confrontations avec lui. Emmanuel Macron, qui a déclaré hier à l'Élysée qu'il fallait accepter des désaccords momentanés. Il a dit croire à la confrontation féconde pour bâtir, je le cite, un compromis au niveau européen. L'école obligatoire dès l'âge de 3 ans au lieu de 6, et ce dès la rentrée prochaine. À l'unanimité, le Sénat a donné son feu vert cette nuit. C'était un engagement pris par Emmanuel Macron en mars 2018 et pour Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, c'est l'article le plus important de la loi. Le Sénat a aussi donné son feu vert à l'obligation de formation pour les jeunes de 16 à 18 ans qui ont décroché scolairement.
Quand un département court-circuite Pôle emploi pour trouver du travail à ses bénéficiaires du RSA.
Eh bien, le conseil départemental du Bas-Rhin lance en effet une plateforme qui met en relation allocataires et entreprises. Une plateforme qui a pour ambition d'être pertinente et concrète et en plus transfrontalière. Arthur Mbaché.
Vous pouvez zoomer, dézoomer sur une carte de Strasbourg, ses alentours, même de l'autre côté du Rhin apparaissent des offres d'emploi, pictogrammes bleus, jaunes, verts, selon que ça correspond un peu ou beaucoup à votre profil. Franck est allocataire du RSA.
Vous marquez où vous habitez déjà, et après sur la carte, ben, y a marqué les offres qu'il y a autour de chez vous. Après, vous cliquez dessus et vous postulez, et puis après ben, vous attendez.
Lui aussi a créé un profil sur le site. Boris Fels, patron allemand d'une boîte d'abri de piscine à 10 minutes de la frontière, il cherche des ébénistes, des charpentiers.
On peut cocher aussi Alsacien, ce que je trouve très très bien, parce que souvent les Français ont peur de venir en Allemagne parce qu'ils ne parlent pas à 100% allemand, mais il suffit de maîtriser la langue alsacienne pour se faire comprendre.
À la gestion qu'il appelle industrielle des chômeurs version Pôle emploi, le président du département, Frédéric Biry, oppose le sur-mesure, le coût humain.
Pôle emploi fait un excellent travail, mais il gère le côté professionnel. La force de notre action, c'est de compléter cela avec une équipe de travailleurs sociaux qui sont là pour lever les autres freins.
24 000 personnes touchent le RSA aujourd'hui dans le Bas-Rhin. Le département vise 4 000 mises à l'emploi grâce à cette plateforme Job Connection d'ici à la fin de l'année. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et on connaîtra à 7h30 les chiffres du chômage de l'INSEE au premier trimestre 2019. Direction Cannes, Mathieu, maintenant avec hier soir la présentation du film Avec plaisir, Les Misérables de l'Algérie, premier film français en compétition qui a fait sensation, un film 24 ans après La haine de Mathieu Kassovitz consacré aux banlieues. Mathieu Charrier.
En 24 ans, on est passé de la haine au désespoir. Voilà comment on pourrait résumer ce film qui nous plonge dans le quotidien de trois policiers de la BAC de Montfermeil. Le beauf, raciste, le banlieusard devenu flic et le nouveau qui assiste aux interventions zélées de ses collègues jusqu'à une bavure filmée par le drone d'un gamin du quartier. Mais ça, c'est la trame de fond. Car ce qui est intéressant, c'est ce que le film raconte, c'est-à-dire le quotidien de la banlieue d'aujourd'hui, celle de la misère, des gamins perdus que même les grands frères ou les caïds n'arrivent plus à raisonner, explique Kladji, le réalisateur.
Et moi, ça va faire 15 ans que je filme mon quartier. Tout est vrai dans le scénario. On est à plus de 40% de chômage dans ces quartiers. Les écoles publiques, elles sont totalement pourri. Donc c'est pour ça, moi, j'ai axé le film sur l'enfance dans ces quartiers difficiles. Qu'est-ce que nos gamins vont devenir ?
Mais ils se rebellent pas contre les frères musulmans. C'est les seuls qu'ils épargnent.
Justement, quand les gamins ont un problème, les premières personnes qu'ils vont voir, c'est ni leurs parents, ni les grands frères, ni quoi que ce soit. Ils vont voir les frères mus parce que c'est les gens les plus justes dans le quartier et c'est les seuls qu'on épargne à la fin du film.
Et Les Misérables n'est pas un film anti-flic ou manichéen. Il n'y a ni gentil ni méchant. Une phrase de Victor Hugo résume tout. Elle apparaît sur l'écran à la toute fin. Il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il n'y a que des mauvais cultivateurs. Au Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Europe 1.
Et puis encore un record dans une vente aux enchères, cette fois organisée par la Maison Christie's à New York. Une sculpture du plasticien américain. Reste avec nous, Mathieu.
Je me suis fait mal aux genoux sous la table, désolé.
Jeff Koons, vendu à plus de 91 millions de dollars. The Rabbit, autrement dit le lapin, qui représente un moulage en acier.
Ça fait cher le lapin. Hein.
Un lapin gonflable de 104 cm.
De 104 cm, déjà, c'est une taille respectable. Eva, un commentaire là-dessus ?
Je me dis que si on crève le ballon, ça fait cher l'œuvre éphémère.
Oui, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Ouais, merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline, qui aime souffler le chaud et le froid pour entretenir la flamme de notre relation extra-professionnelle. Tantôt elle me flatte, tantôt elle me tacle, mais ça finit toujours dans un grand éclat de rire lubrique. Du ciel, dans le ciel un peu partout, ça fait beaucoup rire Céline Kallmann, qui aime beaucoup quand je ripe sur des mots.
Il a dit du ciel dans le ciel.
Copinette, va.
Europe 1. Il est 6h08, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique. Le fact-checking par l'histoire.
On l'a perdu, ça y est.
Ce matin, Céline, écoutez bien. Écoutez bien. Alors que la justice belge va rendre une décision sur la fille légitime du roi Albert II, Fabrice revient sur la longue histoire des enfants illégitimes de la royauté belge.
Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, c'est l'heure de faire un point sur la météo.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Alors Céline, le soleil va encore briller largement aujourd'hui, mais le problème, c'est que les nuages arrivent.
Oui, et ils arrivent par l'ouest et par l'est. Ils vont gagner progressivement une bonne partie du pays dans l'après-midi. Alors pas de pluie encore, ça c'est pour demain. À part peut-être quelques ondées possibles encore entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Encore un petit peu de vent, ce vent de nord-est hein, qui nous a bien embêtés toute la semaine. Mais surtout sur les côtes de la Manche et le nord-ouest. Quant aux températures, elles sont très fraîches encore ce matin. La moyenne ira cet après-midi de 17 à 24 degrés du nord au sud.
Merci Céline. Et Varoc.
En ce 16 mai, nous fêtons la Sainte-Honorée. C'est le patron des boulangers. Alors à cette occasion, on vous demande depuis 5h ce matin sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, quel est le pain que vous préférez, comment vous le dégustez. Céline, par exemple, il y a beaucoup de filles qui répondent. Hein. Elles aiment tout le pain.
Visiblement, Fabrice Dalméda a un avis.
Ah oui, Céline nous dit tous les pains, pain frais croustillant, idéalement artisanal. Je fuis les pains industriels et les chaînes standardisées, sans oublier le beurre salé de nos campagnes. Carolix nous dit le pain amande, noisette et miel de son marché. Mmh. Et Adeline nous dit j'aime le pain, le voir faire, voir le boulanger pétrir aussi la pâte, avec une prédilection pour une baguette toute chaude, tradition française croustillante. J'étais sûre que ça allait vous faire rire. Et je ne remercie
Dalméda
pas.
Qui vient de faire une petite moue, une petite lip, n'est-ce pas, érotique.
Mais je
lubrique.
Ne remercie pas les auditeurs qui m'envoient des phrases un peu étranges à dire. Là. Alors, c'est pas sympa. Continuez à réagir quand même.
Merci à vous et réagissez, oui.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Justement, à l'heure du petit déjeuner, je vous offre bien plus qu'un bol de granola avec des pépites de chocolat. Je vous offre un journaliste avec des tablettes de chocolat. Son corps est un chef-d'œuvre, sculpté à force de gainage dynamique, d'abdos croisés, de pompes claquées. Jérôme, soulevez 3 cm de votre chemise pour donner un avant-goût du produit à nos amis.
Oh, ça me donne faim.
Moi aussi, tais-toi.
Non, il a fait distance, Jérôme Lacroix, pour le journal des sports. À la une du JDS, les filles, une cote qui grimpe en flèche.
Celle du foot féminin, plus que 3 semaines avant le début du mondial en France. Et les Bleus ne ménagent pas leurs efforts pour la préparation du côté de Clairefontaine, avec encore aujourd'hui un nouvel horaire très matinal d'entraînement, dès 7h tout à l'heure. 3 séances au total ce jeudi. Plus Stakhanov qu'Épicure, hein, ce programme bourreau des corps. Quoi qu'hier, c'était
référence culturelle, vanne ouais, derrière jeu de mots, mais Jérôme, vous montez en puissance comme l'équipe de France féminine.
N'arrête pas. Hier, c'était plus léger, séance sous le soleil, et en plus, il y a eu la visite de jeunes fans venus de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Moment de plaisir, notamment pour la joueuse Charlotte Bilbao.
Bah oui, c'est toujours plaisant.
Madame,
on sait qu'il y aura un talent au moins à la Coupe du Monde, que les enfants sont contents, et nous, on essaye de les faire rêver aussi.
Allez.
Ouais, ils la veulent, la coupe à la maison, ces jeunes fans. Vous souvenez de VG Dream, ce tube là, on l'a entendu.
Enfin,
tous les
Jérôme, j'ai communié avec le peuple français, voilà, quoique suisse, de succès, pour la victoire. Oui.
Voilà, pour la victoire des Bleus lors du dernier mondial.
Bien
ouverture
sûr.
De ce mondial féminin en France. Donc France-Corée du Sud, le 7 juin, 10 ans après son départ du Rhône, l'ancien joueur Juninho va-t-il faire son retour à Lyon? Oui, croit savoir ce matin le journal L'Équipe, voilà, qui affirme en une que le Brésilien de 44 ans intègre le staff de l'OL, directeur sportif ou manager, aux côtés d'un futur nouvel entraîneur.
Vous vous souvenez des coups francs de Juninho? Vous souvenez de la trajectoire? Guy Carlier, qui sera notre invité demain, pourrait en faire un livre, je pense. Tellement c'était beau. Le tennis et journée blanche à Rome.
Il pleuvait sans cesse sur Rome ce jour-là. Aucun match du tournoi n'a pu se tenir. Hier, Federer, Djokovic et Nadal contre le français Chardy. Ces affiches sont reportées à aujourd'hui. Chardy, dernier bleu en lice côté messieurs. Monfils, Pouille notamment ont été sortis dès le premier tour. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter à 10 jours du début de Roland-Garros? Pour Guy Forget, le directeur du tournoi parisien, la meilleure chance tricolore se nomme Gaël Monfils.
À partir du moment où son genou va aller mieux, ce que je lui souhaite bien entendu est peut-être celui qui présente le plus de garanties. Alors vous allez me dire c'est pas suffisant quand même, parce que ce qui s'est passé, il n'a pas gagné de tournoi, il n'a pas été en finale, non, mais pour l'avoir vu jouer à Madrid la semaine dernière face à Roger Federer, il y a eu des très très bons passages. Je pense qu'il peut arriver à Roland-Garros avec plus de certitude.
Guy Forget avec Jean-François Pérez.
Et oui, mon cher, il faut que je trouve l'autre page, la page 2 du JDS. Pluie aussi, et alors là, le froid aussi sur le Tour cycliste d'Italie.
Le français Arnaud Démare finit 3e au sprint de la 5e étape. Victoire pour l'allemand Ackermann. Le slovène Roglic, toujours premier du général. Abandon de l'un des favoris, le néerlandais Dumoulin, qui avait chuté avant-hier. Nicolas Karabatic, Mathieu, passe du handball au billard. Bah oui, la star française va se faire opérer d'une blessure à la cheville gauche. Il va manquer les derniers matchs de la saison avec
le journal des sports de toutes les audaces.
Il va manquer les derniers matchs de la saison avec un PSG déjà sacré champion de France, mais il pourrait bien aussi manquer les 2 derniers matchs de qualification des Bleus pour l'Euro 2020 en Lituanie le 13 juin et contre la Roumanie le 16.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Son nom est Zidane. Théo Zidane, le troisième fils de Zizou, est chargé ce soir de mener les jeunes bleus vers la finale du championnat d'Europe des moins de 17 ans à Dublin. Demi-finale, c'est un France-Italie en plus ce soir 20h. Et comme papa, Théo, il porte dans le dos le numéro 10 chez les bleus.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et on accueille à présent Fabrice Dalmeida, dont je moquais hier la voix qui a tendance à partir dans les aigus. Mais étais-je vraiment le mieux placé pour lui donner une leçon dans ce domaine? La réponse est non.
Allez, c'est à toi maintenant.
Voici Fabrice Dalmeida. Bon, voici Fabrice Dalmeida.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalmeida.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, la cour d'appel de Bruxelles doit rendre sa décision concernant Delphine Boël, qui dit être la fille du roi Albert II, fille illégitime, née en 1968. Est-ce la première fois qu'une telle situation se produit en Belgique?
Ben en fait, le premier roi des Belges, Léopold, a commencé. Il avait plus de 50 ans quand il a rencontré en 1842 une jeune femme de 16 ans, Arcadie Claret. Et bientôt, il lui a fait deux fils. Le roi a demandé à un de ses proches d'épouser Arcadie afin de donner un nom à ses enfants prénommés Georges et Arthur. Plus tard, ils ont même été anoblis. On murmure que la famille de Belgique aurait eu à cette époque une cagnotte pour régler par l'argent les questions d'adultère royaux. On appelait ça le pot bâtard. Et donc, ses successeurs, par la suite, Léopold II a eu deux enfants avec une Française, Blanche de la Croix, puis Albert Ier aurait peut-être eu jusqu'à six enfants illégitimes et Léopold III en aurait eu deux.
Et qu'en est-il du roi Baudouin, que le général de Gaulle appréciait tant?
Ben oui, mais aucune rumeur n'a circulé sur Baudouin. Il faut préciser qu'il n'a pas non plus eu d'enfant avec son épouse la reine Fabiola, raison pour laquelle c'est Albert II qui lui a succédé. L'actuel roi de Belgique, Philippe, ne fait pas non plus l'objet de rumeurs en ce sens. Donc Albert II et son litige avec Delphine Boël renvoient à une histoire ancienne de la Belgique.
Alors ne jetons pas la pierre à nos amis belges, en France aussi, il y a eu des enfants de rois illégitimes.
Bah oui, toute l'histoire de la royauté française depuis les Mérovingiens est marquée par des naissances illégitimes, par des bâtards royaux. Le plus à cheval sur la question est Louis XIV. Il légitime ces bâtards, leur fait donner une éducation et plus encore, il leur accorde la préséance sur les ducs et père, car selon lui, la moindre goutte de sang du roi entraîne une supériorité. Le sang, l'ADN, c'est précisément le débat sur lequel se penche aujourd'hui la Cour d'appel de Bruxelles afin de répondre provisoirement à la demande de reconnaissance en paternité de Delphine Boël, une question qui a des implications en termes d'honneur, voire de patrimoine, mais qui, comme souvent, n'aura aucune incidence en matière de succession de la couronne.
Votre thèse d'Améda, merci beaucoup. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, deux heures d'actu et d'invités pour la décrypter. On en a peut-être moins peur qu'avant et c'est précisément ce qui le rend redoutable. Le sida tue encore en 2019 à 6h20. Alors que le G7 des ministres de la Santé se tient à Paris, nous recevons le directeur général de l'association Aide qui lance une campagne choc interpellant directement Emmanuel Macron pour l'inciter à faire plus contre le sida.
Bon réveil sur Europe 1, il est 6h18. Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
5 ans après la fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord, les salariés vont connaître aujourd'hui la décision du tribunal des prud'hommes. Plus de 800 d'entre eux contestent leur licenciement en raison des résultats bénéficiaires du groupe américain. La décision devrait être connue à 14h. Quatrième jour du procès du couple Balkany. Hier, le maire de Levallois-Perret s'est retranché derrière un héritage familial pour expliquer son train de vie. Aujourd'hui, le parquet national financier va présenter ses réquisitions concernant le délit de fraude fiscale. Enfin, une sculpture du plasticien américain Jeff Koons vend plus de 91 millions de dollars lors d'enchères organisées par la maison Christie's à New York. C'est un record pour un artiste vivant.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 16 mai. L'actu, c'est aussi ce G7 des ministres de la Santé qui se tient à Paris aujourd'hui et demain. Et cet appel lancé à Emmanuel Macron pour que la France finance davantage la lutte contre le sida dans le monde. On recherche un Emmanuel pour mettre fin au sida, peut-on lire sur des affiches placardées dans plusieurs villes. Profil recherché, déterminé, ambitieux, souhaite marquer l'histoire, totalement bilingue et qui a des relations privilégiées avec les grands de ce monde. Bonjour Parc 19.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'association Aide, à l'origine de ce premier avis de recherche pour mettre fin au sida. Alors, certes, l'accroche interpelle, mais pourquoi avoir choisi de viser spécifiquement Emmanuel Macron? La lutte contre le sida, si elle a évidemment besoin d'un levier politique, n'est pas que du ressort du président de la République.
C'est pas que du ressort du président de la République française, mais c'est la France qui a créé
le fonds mondial dont il est question aujourd'hui. Et la France héberge ces jours le G7, notamment le G7 Santé. Et puis en octobre prochain, la conférence de reconstitution du fonds mondial. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les trois ans, on remet de l'argent dans le fonds mondial.
Ça va se passer en octobre à Lyon.
Ça se passe en octobre à Lyon. C'est présidé par le président de la République. C'est la première fois que la France héberge la reconstitution du fonds mondial. Donc c'est un moment très important, y compris pour l'engagement de la France au niveau international. Dans l'histoire globale de la lutte contre le VIH, la France est très présente. Et donc, c'est une année très importante.
Alors, un mot sur la campagne elle-même d'affichage. Vous espériez lancer une campagne de grande ampleur. Et vous allez visiblement devoir vous contenter d'un affichage libre et d'une diffusion sur les réseaux sociaux. En cause, ces affiches dont je parlais, qui utilisent l'image d'Emmanuel Macron, certes masquée derrière le texte, mais qui reste identifiable. Vous avez reçu un avis défavorable de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité sous prétexte que la campagne affiche le portrait d'Emmanuel Macron. C'est pas un très bon signe, c'est une sorte de frilosité, c'est un mauvais signal pour vous?
Cette autorité a toujours pris des décisions parfois un peu étranges, donc ils ne sont pas à leur coup d'essai. C'est déjà arrivé à de multiples reprises ces dernières années sur les questions de VIH, sur d'autres choses, encore très récemment pour une autre campagne qui ne nous concernait pas nous. Donc bon, voilà, il y a une appréciation juridique un peu étrange, c'est-à-dire que dans une démocratie, le premier personnage public de l'État, on ne pourrait pas utiliser son image. Je suis pas sûr qu'au niveau de la présidence de la République, on partage ce point de vue-là. Donc, cette autorité est égale à elle-même, et puis c'est pas ça qui va nous empêcher de faire cette campagne.
Alors, pour parler de ce fonds mondial, de ces dons qu'on attend en octobre, lors de la précédente conférence au Canada en 2016, plus de 12 milliards de dollars avaient été collectés. À quoi a servi cet argent concrètement? Ça a permis quel progrès? C'est un argent qui va à la recherche, à la prévention?
C'est un argent qui va très concrètement au traitement. Au traitement, principalement au traitement, au dépistage. Alors je donne quelques exemples. Au Burkina Faso, par exemple, il y a une grande association qui s'appelle REF+. Tout le matériel de prévention, les préservatifs distribués par REF+, c'est le Fonds mondial qui les finance. Au Burundi, il y a une autre grande association, l'ANSS, qui prend en charge la moitié des personnes séropositives du Burundi. Tous les dépistages des femmes enceintes, c'est l'ANSS qui les fait. Les traitements qui sont délivrés, c'est le Fonds mondial qui les paye. Donc parmi les 22 millions de personnes qui sont sous traitement aujourd'hui dans le monde, il y en a presque les trois quarts qui sont sous traitement grâce au Fonds mondial. Donc c'est extrêmement concret, c'est pas des choses un peu floues dans le vague ou des campagnes comme celles qu'on fait là qui visent à mobiliser, c'est extrêmement concret.
Alors, il faut peut-être faire un petit rappel plus général. En France, les traitements contre le VIH sont accessibles, mais le sida continue à tuer 2 personnes toutes les minutes dans le monde. Malgré 30 ans de progrès de la recherche, la partie est toujours pas gagnée contre le VIH.
La partie est pas gagnée, et c'est bien l'enjeu de la reconstitution du Fonds mondial. L'objectif affiché par la France, c'est 14 milliards de dollars. Ce que l'on estime nécessaire, ce que les experts estiment nécessaire, c'est 18 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'il faut aller plus vite que l'épidémie. Il faut dépister plus de personnes, il faut mettre plus de personnes sous traitement. Aujourd'hui, on a moins de 80% des personnes séropositives sous traitement, c'est insuffisant pour aller plus vite que l'épidémie.
Eva Rock.
L'ONU d'ailleurs veut mettre fin à l'épidémie en 2030. Est-ce que ça vous semble possible?
Alors oui, c'est possible si véritablement on met l'argent sur la table et on met en place les systèmes qui permettent de dépister le plus possible de personnes, qu'on donne accès au traitement, y compris aux enfants. Il faut des traitements adaptés pour les enfants qui sont séropositifs. Donc c'est possible, mais dans le monde comme en France, il faut pour ça s'engager très fermement là dans les années qui viennent.
C'est quoi les pays où l'urgence est maximale aujourd'hui?
Eh bien, ça dépend en fait. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont très très confrontés à l'épidémie de VIH comme l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, où ils ont fait des efforts considérables ces dernières années. Il y a des zones qui ont été un petit peu en dehors des radars, je pense notamment à l'Afrique francophone où seulement 40% des personnes séropositives sont sous traitement. Là, il y a un plan de rattrapage à mettre en place. Là, c'est une vraie situation d'urgence. Et plus proche de nous, en Ukraine par exemple ou en Biélorussie, il y a une épidémie extrêmement dynamique chez les usagers de drogue parce qu'il n'y a pas de politique réelle de prévention pour les usagers de drogue.
C'est un peu l'arlésienne, mais on est où dans la recherche du vaccin?
Alors, cette histoire du vaccin, c'est très important pour la recherche fondamentale. Ça permet d'apprendre des choses très intéressantes sur la manière dont le virus se réplique. Aujourd'hui, ce n'est pas le vaccin qui va nous sauver de l'épidémie, c'est le dépistage, le traitement, et pour les personnes qui sont très exposées, la prophylaxie pré-exposition. Des personnes séronégatives qui s'exposent beaucoup prennent un comprimé d'antirétroviral et sont protégées à 100%.
C'est important de le noter, effectivement.
On constate... Et les personnes séropositives sous traitement ne transmettent plus le VIH. Il faut être très clair avec
sûr.
Ça. On en est sûr, ça fait plus de 15 ans qu'on le martèle. Encore la semaine dernière, il y a une publication dans une grande revue internationale qui l'a montré. C'est un suivi sur de nombreux nombreuses années chez des couples d'hommes qui ont été suivis dans des couples où l'un était séropositif, l'autre séronégatif. Il n'y a pas eu de transmission. Les personnes séropositives sous traitement ne transmettent pas le VIH.
On note hélas une baisse de la vigilance des jeunes face au sida, en France en tout cas, des jeunes qui, selon certaines études récentes, oublient souvent le préservatif. Quel message vous voulez leur faire passer ce matin sur Europe 1 ? Il suffit d'une fois, on vit certes plus longtemps et mieux, mais on ne guérit pas du sida en 2019 ?
Alors peut-être qu'ils n'ont pas peur du VIH parce qu'ils pensent qu'on peut avoir un traitement et qu'on vit longtemps, mais il y a aussi toutes les IST et que ce qui est important, c'est qu'on prend soin de soi et on prend soin des autres. C'est-à-dire qu'on se protège et en se protégeant, on protège les autres. Alors c'est une vision altruiste. Je pense que les jeunes sont aussi altruistes aujourd'hui qu'ils l'étaient hier, donc ils peuvent entendre facilement qu'il suffit de mettre un préservatif et on se protège.
Et si on n'est pas très altruiste, il y a aussi Françoise Barré-Sinoussi, une des co-découvreuses du virus du sida, qui dit « Les jeunes ignorent qu'à long terme, sous antirétroviraux, certains patients développent des maladies cardiovasculaires ou des désordres d'ordre neurologique précoce. Voilà, il faut savoir
et la
aussi.
Discrimination est extrêmement forte pour les personnes séropositives.
Merci Marc Lizneuve d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. J'appelle que vous êtes le directeur général de l'association AIDE.
Europe 1, il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le journal du Rachmaninov du News, David Doucan. Puis la météo, globalement une belle journée avec un peu plus de nuages qu'hier et des températures plus douces, comme vous Céline Dacosta.
Il est 6h27, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Encore du soleil avec cependant quelques bémols.
Oui, on a par exemple ce voile nuageux qui va gagner tout le nord-ouest dans la matinée, s'étendre jusqu'en Normandie, en Vendée dans l'après-midi. C'est aussi sur ce secteur que le vent de nord-est, hein, le petit vent qui nous a bien gêné depuis le début de la semaine, va souffler le plus parce que ça va se calmer pour les autres. Des nuages, on en verra aussi arriver par l'est dans l'après-midi, nuages qui vont gagner peu à peu les régions nord de la Seine, le nord-est et puis le relief alpin partout ailleurs. Encore pas mal de soleil, quelques gouttes possibles cet après-midi entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Mais vous l'avez compris, si les nuages arrivent, c'est que le temps va changer. Demain, c'est la pluie qui fera son arrivée sur une moitié sud. Et puis ce week-end, ce sera pluvieux partout avec des orages sur l'est et le sud-ouest.
Quid des températures, Céline ?
C'est frais encore ce matin et puis ça remonte cet après-midi, des valeurs de saison, même si ça reste un petit peu juste dans le nord-est, hein, 15 à 17 degrés. On aura 18 degrés à Paris, 19 à Brest, 20 degrés à Nantes, 21 à Marseille, 22 à Biarritz, jusqu'à 24 degrés à Toulouse. Alors il y a eu de la neige hier aussi en Corse, je ne sais pas si vous avez vu les images qui étaient assez impressionnantes sur les hauteurs corse, ça a occasionné pas mal de problèmes de circulation qui se règlent. Eh bien il y en a eu aussi beaucoup en Autriche, à tel point que la station de ski Oscar, rigolez, David Doucan, a décidé de rouvrir en plein mois de mai sa station pour le week-end.
Mais pourquoi
donc,
pas,
elle était fermée. Donc, dérèglement climatique ou simple péripétie météorologique. En tout cas, la neige au mois de mai, c'est possible.
Et c'est possible. Et avec Céline Dacosta.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Europe 1,
5h, 7h.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe sans jamais négliger vos précieux zygomatiques. Un esprit malicieux, taquin parfois, mais toujours respectueux des grandes valeurs et des grandes institutions ou corps de métier de notre belle République. Preuve en est cet émouvant hommage rendu hier aux antennes par Céline et Eva au travail admirable fourni par les sapeurs-pompiers de Paris.
Bah les pompiers de Paris, non, quand tu les vois avec leurs t-shirts courir là sur les bords de Seine. Alors, c'est pas la même chose dans toutes les villes.
Et au Portugal, dans certains villages un peu reculés comme ça dans la campagne, c'est pas la même chose non plus. Ils courent pas. Non, ils sont au bar.
Heureusement qu'il est peu probable que les pompiers portugais nous écoutent. David Doucan, je vous sens pressé de passer au journal.
Si on peut favoriser les vannes à l'info, il faut pas hésiter.
Oh, ne soyez pas bougons, on y va, on y va.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici donc le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. Cette citation attribuée à Voltaire résonne sans doute aux oreilles d'Emmanuel Macron. Angela Merkel a admis vivre des confrontations avec le président français. Elle parle aussi de différences de mentalité. Nous serons à Berlin pour tout comprendre dès le début de ce journal. Le train Perpignan-Rungis sera-t-il remplacé par 25 000 camions ? La ministre des Transports parviendra-t-elle à éviter cette aberration écologique ? On vous explique tout dans un instant. 2000 tremblements de terre en un an. Conséquence, l'archipel de Mayotte dans l'océan Indien s'est enfoncé de 10 cm par rapport au niveau de la mer. Que se passe-t-il ? Les scientifiques pensent qu'un volcan sous-marin est en train d'apparaître.
Europe 1.
Et voilà qu'Angela Merkel accorde une interview à la presse allemande avec dans le viseur la France, ou plutôt Emmanuel Macron, avec qui elle admet vivre, je cite, des confrontations. La chancelière évoque aussi des différences de mentalité. Enfin, selon elle, les deux dirigeants ne partageraient pas la même compréhension des rôles. Bref, le couple bat de l'aile et la proximité des élections européennes n'y est pas pour rien. Décryptage de notre correspondante à Berlin. Hélène Kohl.
Chez les conservateurs allemands à la CDU, on parle désormais ouvertement de rendez-vous raté entre Merkel et Macron. Un rendez-vous avec l'histoire que nous gâchons chaque jour davantage. Ce sont les mots exacts d'un élu de haut rang ici dans la famille politique de la chancelière. Et ça commence à se voir. Lors du dernier sommet européen à Sibiu en Roumanie, les deux dirigeants se sont évités. 10 jours avant, ici à Berlin, devant leurs homologues des pays des Balkans, ils ont même ouvertement exposé leurs divergences. On n'avait pas vu ça depuis l'an 2000 et le sommet tendu entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder. On savait qu'il y avait des différences de point de vue, mais au moins pour l'image, Berlin et Paris maintenaient une certaine harmonie, une façade que la campagne électorale pour les européennes a fait voler en éclats. Pour Angela Merkel, jusqu'au 26 mai au moins, Emmanuel Macron est un adversaire. Notre adversaire principal, disent même certains, qui ont peur qu'il dynamite le paysage politique européen. La droite allemande ne veut pas se laisser faire et répond aussi par provocation, comme par exemple quand elle demande de retirer le Parlement européen à la ville de Strasbourg, quitte à saboter la relation de confiance historique entre les deux pays. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et Emmanuel Macron a réagi hier soir depuis l'Elysée. Le chef de l'État a déclaré ne croire ni à la confrontation stérile, ni à l'entente stérile avec Angela Merkel, mais, je cite, à la confrontation féconde afin de bâtir un compromis au niveau européen. Encore un carton rouge de la Cour des comptes. Dans leur rapport sur le budget de l'État pour 2018, les sages fustigent les fonds sans personnalité juridique. Ce sont des réserves d'argent, il y en a plus d'une centaine, qui servent à verser des subventions, des indemnisations, des prestations sociales. La Cour les juge opaques et inefficaces. Anne-Laure Jumet.
Ce sont au moins près de 12 milliards d'euros qui échappent aux règles budgétaires. Et encore, c'est un montant très sous-estimé selon la Cour des comptes. Au dernier pointage, il y avait 154 fonds dans les champs de quasiment tous les ministères. Fonds d'accompagnement vers le logement, fonds national pour la société numérique ou encore fonds de la gestion des risques en agriculture. Et s'ils sont aussi nombreux, c'est parce qu'ils permettent d'assurer un financement garanti pour certaines politiques publiques. Mais pour la Cour des comptes, c'est un problème car le Parlement ne peut pas jouer son rôle de contrôle. Il n'a notamment pas la main sur les dépenses effectuées par ces fonds. Et les sages épinglent particulièrement le fonds pour l'innovation et l'industrie créé en janvier 2018, alimenté par le fruit des privatisations. Plus d'un an après, le bilan est bien mince, déplore Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes.
La création de cet outil a été si complexe que ce fonds n'a même pas été opérationnel sur l'année 2018. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Nous recommandons de le réintroduire dans le budget de l'État.
Des critiques balayées par le ministre de l'Économie. Pour Bruno Le Maire, il faut garder le mécanisme actuel. Sinon, dit-il, les crédits sont systématiquement réduits d'année en année.
Anne-Laure Jumet du service, économie d'Europe 1. Connaissez-vous le Perpignan-Rungis? C'est un train de marchandises indispensable pour abonder l'Île-de-France en produits frais. Problème, les wagons frigorifiques sont vétustes, les rénover coûtent très cher, la SNCF ne veut pas payer. La solution de remplacement fait bondir puisque l'on parle de 25 000 camions sur les routes chaque année, un délire environnemental. Il revient à Elisabeth Borne, la ministre des Transports, de l'éviter. Pierre Herbulot.
30 millions d'euros pour sauver un train de fruits et légumes. Le prix pour rénover les wagons réfrigérés, pour continuer surtout à acheminer sans polluer 400 000 tonnes de produits frais de Perpignan à Rungis chaque année. Un investissement jugé trop important par la SNCF pour une ligne si peu rentable. Elle a donc décidé de ne pas renouveler son contrat fin juin avec les transporteurs de Rungis. Oui, sauf que l'alternative des 100 camions par jour est une aberration écologique pour Jean-Luc Gibelin, le vice-président de la région Occitanie.
C'est à la fois des gaz à effet de serre sur la route, mais c'est une empreinte carbone pour les produits à destination qui est importante. Et je crois qu'il est vraiment utile que ces produits qui sont vraiment utiles pour la santé aient une marque carbone la plus légère possible.
L'idée à court terme, c'est de gagner du temps pour éviter que la ligne ne soit suspendue dès le mois prochain. Le patron de Rungis a par exemple débloqué 300 000 euros pour louer le train réfrigéré une année de plus. Pour ce qui est du long terme, la ministre des Transports a invité toutes les parties à se mettre autour d'une table d'ici la fin de la semaine pour trouver une solution sérieuse et respectueuse de l'environnement.
Pierre Herbulot pour Europe 1.
À suivre dans ce journal, 2000 séismes à Mayotte depuis un an. Les scientifiques pensent qu'un volcan sous-marin est en train de surgir. À tout de suite.
Il est 6h35. Europe 1. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, 2000 séismes à Mayotte depuis un an, mais que se passe-t-il ?
C'est la question à laquelle essaient de répondre plusieurs missions scientifiques lancées dans le 101e département français, situé dans l'océan Indien. 2000 tremblements de terre, vous le disiez, et un archipel qui, sur les 12 derniers mois, s'est enfoncé de 10 cm par rapport au niveau de la mer. Les sismologues pensent que le responsable n'est autre qu'un volcan en train d'apparaître sous la mer. Théo Manval.
C'est ce qu'on appelle un essaim de séisme. Des tremblements de terre sans cesse, jusqu'à 5 par jour depuis un an près des côtes de Mayotte. Les plus violents dépassent 5 sur l'échelle de Richter et s'ils ne font pas de gros dégâts, ne déclenchent pas de tsunami. Les relevés montrent que depuis juillet 2018, Mayotte s'est légèrement déplacée vers l'est et s'est enfoncée de plus de 10 cm dans la mer par endroit. Plusieurs missions scientifiques ont donc été lancées et outre des mouvements de plaques tectoniques, il semble bien qu'un volcan soit en train de sortir sous l'océan, explique Jérôme Van Der Voer, chercheur au CNRS.
Un volcan sous-marin par plus de 3000 mètres de fond, donc il y a peut-être éruption, soit une chambre magmatique en train de se vider au fond de l'eau, ou soit des épanchements qui peuvent être infiltrés dans les sédiments et donc on ne verrait pas forcément au fond de l'océan.
Depuis 3 mois, des sismomètres ont été envoyés, capter les mouvements du sol marin, des sondes aussi pour repérer d'éventuelles sorties de fluides ou de gaz. Un navire scientifique vient de les récupérer et doit maintenant les faire parler. La préfecture de Mayotte ne se dit pas inquiète pour la population. Elle a tout de même renforcé les exercices antisismiques ces derniers mois.
Théo Manval pour Europe 1. Démarrage aujourd'hui de Vivatech, le salon de l'innovation et des start-up, porte de Versailles à Paris. Pour l'événement, Europe 1 installe ce soir son studio à la station F. Rendez-vous de 17 à 19h, édition spéciale avec Mathieu Béliard, les nouveaux métiers du numérique, vous verrez. Il y en a beaucoup. Alors c'est quoi la station F ? C'est tout simplement le plus grand campus de start-up au monde, lancé il y a 2 ans par Xavier. 4000 personnes y travaillent à ce jour. François Geffrier y a passé une journée dans la peau d'un entrepreneur. Écoutez son reportage.
Le rituel du matin, c'est l'accueil des nouveaux.
On va aller en haut prendre des photos pour qu'ensuite on vous remette vos badges.
Ils sont une quinzaine chaque jour, parmi eux Eduardo, venu de Barcelone.
C'est vraiment génial. Je n'ai jamais été dans un bâtiment comme ça. Plein de jeunes, tout le monde est bien habillé. C'est un peu intimidant, mais c'est cool.
Le briefing commence avec une vidéo plutôt décalée.
La règle la plus importante, vous êtes ici pour monter des startups folles d'ambition, pour vivre la plus grande expérience de votre vie et pour profiter.
Pour vraiment profiter, il y a 60 salles de réunion, un auditorium, des imprimantes 3D, un bureau de poste ouvert 15 heures par jour, des baby-foot et des flippers, des canapés partout. Cyril Labidi de la start-up Forward Labs est ici depuis 2 ans.
C'est pas mal de ressources et puis une communauté en fait. On a nos voisins qui ont les mêmes problèmes que nous, on partage des astuces. Les gens veulent venir aussi à Station F, veulent voir ce que c'est. On obtient pas mal de meetings sur ces aspects-là aussi. Ouais.
Même la Banque de France, l'URSSAF, les douanes renseignent les entrepreneurs sur place. Laurent Mater de Pôle emploi tient une permanence ici.
Un créateur d'entreprise peut être inscrit à Pôle emploi et percevoir ses allocations jusqu'à la fin de ses droits.
Au déjeuner, direction le distributeur automatique de sushi ou bien le gigantesque restaurant italien construit dans Station F.
Dans le restaurant, il y a plus de 2000 places assises.
Tout est démesuré. Ici, même les horaires de travail de certains comme Binta Jamais, une américaine fondatrice de la start-up Connexio.
C'est génial d'avoir un bâtiment qui est ouvert 24/7 parce qu'on peut passer les nuits ici, on peut venir le week-end, on peut vraiment en fait profiter de l'espace.
C'est ouvert 24/24, en effet, mais rassurez-vous, Binta n'est jamais restée au-delà de 2h du matin, nous dit-elle.
François Geffrier pour Europe 1, et donc rappel, 17h-19h, Mathieu Béliard, édition spéciale en direct de la station F à Paris.
Merci, c'était le journal de David Doucan, journaliste spécialisé politique, ne l'oublions jamais, même s'il est également très à l'aise en économie, comme on a pu le découvrir hier, au détour d'un sujet sur la déclaration de revenus. Ces explications me semblant peu claires, durant un reportage, je me suis permis de lui demander une précision sur cette année blanche dont on parle beaucoup. Je n'ai pas été déçu du voyage.
C'est le moment de remplir votre déclaration de revenus.
Mais hein, c'est quand même une année blanche. Les revenus exceptionnels, c'est quoi?
C'est quoi les revenus exceptionnels?
Si ton salaire, tu le déclares pas, excuse-moi, mais ben, c'est une année blanche.
Non, pas du tout. Par exemple, j'en sais rien. J'y comprends rien.
Merci David, tout est plus clair avec l'éclairage de professionnel. On passe à la météo.
Vous êtes malhonnête.
Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Rénoval vous présente la météo.
Alors, j'ai laissé le sponsor, oui. Mais vous êtes malhonnête, vous faites des montages, c'est incroyable. Vous allez chercher des éléments.
C'est très bien.
Mais bien sûr.
Vous pouvez d'ailleurs nous l'expliquer. Si nous avions là
une vraie maîtrise de la fiscalité, il faudrait un peu plus de temps, mais il y a une météo en attente.
Malheureusement, le temps nous manque, c'est dommage. Les nuages arrivent progressivement, Céline.
Comme je vous sauve là avec la météo, David. Oui, alors les nuages arrivent et nous encerclent puisqu'ils arrivent par l'ouest, par l'est. Demain, c'est la pluie qui sera présente surtout sur une moitié sud. Ce week-end, ça sera pour tout le monde. En attendant, on profite de cette journée qui sera quand même agréable avec de larges éclaircies. Les températures cet après-midi iront de 17 à 24 degrés, un petit peu moins dans le nord-est avec 15 à 17 degrés. Et ce matin, c'est encore bien frais.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Partout où il passe, les malentendus trépassent. Politique, économie, médias, chaque matin, les trois fantastiques vous décortiquent l'actu avec Maestra. Au programme ce matin, les déboires du président Macron qui aimerait tant parler d'Europe. Mais pas de chance, on le ramène toujours à des affaires de politique intérieure. Pas gentil les gens.
Excellent réveil à tous, il est 6h42. Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Angela Merkel admet vivre des confrontations avec Emmanuel Macron. Elle évoque aussi dans une interview à la presse allemande des différences de mentalité. Le président français a réagi, préférant quant à lui parler de confrontations fécondes. Après 48 heures de garde à vue, l'anesthésiste de Besançon sera-t-il mis en examen ? Le docteur Frédéric Péchier est soupçonné d'avoir empoisonné des dizaines de personnes, en plus de celles pour lesquelles il est déjà inculpé. Le procureur de la République de Besançon tiendra une conférence de presse à 17h30. Enfin, démarrage aujourd'hui de Vivatech, le salon de l'innovation des startups Porte de Versailles à Paris. Pour l'événement, Europe 1 installe ce soir son studio à la Station F, le plus grand campus de startups au monde, lancé il y a 2 ans par Xavier Niel. Rendez-vous de 17 à 19h, édition spéciale avec Mathieu Béliard.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont le panache, ils sont l'audace, ils sont les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie. Chaque matin pour vous, ils démasquent les tartuffes, exposent les réalités économiques et font exploser les éléments de langage des politiques.
On appelle ça attendrir la viande.
Mickaël, je vais vous donner la parole dans une seconde. Juste avant, Axel, je voulais savoir ce que vous pensez de notre nouvelle musique d'intro. C'est Léonard Bernstein.
Ça change de Sardou.
Hein. Comme vous dites. Bref, on commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Hier, on découvrait Emmanuel Macron seul. Sur une affiche pour la campagne des européennes, initiative révélée hier par Europe 1. Mais pourquoi se met-il autant en avant pour ce scrutin du 26 mai ?
Parce que son issue est incertaine. L'inquiétude est grande d'ailleurs au sein de La République En Marche que la liste RN arrive en tête le 26 mai et en coulisses d'ailleurs il est admis que le risque est assez sérieux. C'est la raison pour laquelle la majorité veut relancer la mobilisation et Emmanuel Macron ne mégote pas ses efforts et insiste de son côté. Il souhaite que l'accent soit enfin mis sur le programme, sur les bienfaits de l'Europe pour les jeunes qui d'ailleurs eux-mêmes, eux, vivent l'Europe au quotidien sans s'intéresser aux élections et alerte aussi dans chaque prise de parole les eurosceptiques, les populistes affaibliront la capacité de l'Europe à peser dans toutes les négociations s'il entre en force dans la Commission. Et pour mieux faire le lien entre le président et la liste Renaissance, eh bien, La République En Marche a dû faire une affiche avec le portrait du président, initiative d'ailleurs que l'Élysée ne commande pas, c'était pas de son fait, mais qui, dit-on, répond quand même à un besoin d'incarnation présidentielle sur la campagne. La tête de liste appréciera. Le président donc regrette que le débat public se focalise sur les duels de politique intérieure, sauf que c'est le chef d'État qui l'a voulu. Et avec ses propos fort sur Le Pen en Roumanie, c'est comme souvent dans d'autres sujets, il détourne lui-même l'attention sur les sujets de fond, cette fois-ci liés à l'Europe.
Et dans ce contexte, voilà qu'Angela Merkel reconnaît être en confrontation avec Emmanuel Macron. Décidément, pas facile de parler du fond dans cette campagne.
Et oui, il est victime de son caractère, dit-on également à l'Élysée. On admet que autour du président, eh bien parfois que ce volontarisme, sa jeunesse peuvent effectivement irriter les caciques européens qui supportent mal cette rivalité naturelle imposée par le président français. Et la déclaration de la chancelière, dont la traduction exacte a été examinée à la loupe, je peux vous dire, hier par les conseillers élyséens, mais confirme bien que lorsqu'il s'agit du fond des dossiers, on bute régulièrement sur l'état du couple franco-allemand. Ça confirme d'ailleurs surtout le déséquilibre structurel dans la relation franco-allemande, parce qu'il faut quand même avoir en tête un fait majeur. Il n'y a que du côté français qu'on est obsédé par la force du couple franco-allemand. De l'autre côté du Rhin, on n'en parle jamais. Et pour cause, pour quelle raison la puissance économique qu'est l'Allemagne aurait vraiment besoin de la France ? Et puis, puisque le président Macron souhaite que les choses soient dites, alors vous savez ce que l'on dit depuis des années en coulisses, disent les dirigeants allemands sur la France ? Eh bien, ils disent la France, c'est comme des passagers montés en première, mais en ayant acheté un billet de seconde.
Oh. C'est dégueulasse. Une dernière petite question. Vous avez observé, j'imagine, le débat hier entre Nathalie Loiseau et Bardella sur une chaîne info. Qu'en avez-vous pensé, mon cher Mickaël ? Est-ce que vous comprenez qu'Emmanuel Macron se mette seul sur la fiche ?
Ça peut expliquer effectivement ça. Et puis, c'est surtout, ça montre que le choix qui avait été notamment poussé par Daniel Cohn-Bendit de dire une candidate comme Nathalie Loiseau serait très bien parce qu'il faut quelqu'un qui soit dans la technicité pour ensuite faire un mandat européen qui lui-même est très technique, eh bien ça pose un problème politique. Et c'est vrai qu'en même temps, il n'y a qu'en France qu'on cherche des rockstars pour faire la tête d'affiche d'une élection qui ensuite se passera beaucoup plus du côté de Bruxelles.
Merci Mickaël Darmon. On passe à l'économie avec vous, mon cher Axel de Tarlé. Un salarié sur trois serait prêt à accepter une baisse de salaire en échange d'un travail plus épanouissant.
Ça fait réfléchir, hein.
Ah oui,
effectivement.
Ça fait réfléchir.
Voilà, c'est une enquête. Je vais y réfléchir, tiens.
C'est une enquête. Bah, baisser votre salaire, oui. C'est une enquête internationale réalisée par une société de travail collaborative qui s'appelle Rike. Et donc, on a posé la même question à des salariés américains, anglais, allemands et français. Et cette question, c'est donc, acceptez-vous l'idée qu'on baisse votre salaire, mais en échange, vous avez un travail qui vous rend plus heureux? Et bien, à cette question, en France et en Allemagne, vous avez un salarié sur trois qui dit d'accord, chiche. Et plus surprenant, au Royaume-Uni et aux États-Unis, vous avez un salarié sur deux qui dit d'accord, le bonheur avant l'argent. Alors, c'est quoi un travail qui vous rend plus heureux? Voilà. Ben, c'est, alors, je cite l'enquête, un travail qui a du sens, avec des gens qui m'épanouissent, et c'est très important, dans un endroit qui me convient. Si vous regardez en Grande-Bretagne, par exemple, la notion du lieu de travail est très importante dans cette quête de l'épanouissement. En fait, si on fouille un peu, très vite, on arrive au syndrome de la ferme dans le Larzac. Vous savez, c'est cette envie de tout plaquer, d'aller élever des chèvres dans le Larzac, d'ouvrir une crêperie à Lorient, moi j'en sais rien, de vendre des confitures en Auvergne. Et c'est cette petite...
Vous nous révélez là vos rêves secrets.
Mais c'est le rêve secret de beaucoup de monde, vous savez. Et c'est cette petite musique qui monte sur le mal-être des salariés dans ces grandes métropoles anonymes et qui ne voient pas très bien l'intérêt de leur job. Je ne sais pas si vous avez vu cette enquête de TNS Kantar la semaine dernière. 18% des salariés disent avoir l'impression qu'ils occupent un poste inutile. En revanche, dans ces grandes métropoles, si vous regardez les nuisances, le temps de trajet, le coût du logement, la pollution, eh bien ça, ce sont des nuisances bien réelles qui peuvent donner envie de tout plaquer. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut demain partir dans le Larzac. Vous savez, ça pourrait rapidement se révéler être un mirage et on pourrait regretter son petit confort urbain. Il n'empêche, hier, je vais vous révéler ma vie, j'ai déjeuné avec Alexandra François-Cussac, qui est la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, et qui m'a tenu un discours très intéressant, justement, sur ces grandes métropoles qui, selon elle, seraient en phase de saturation à cause de ces nuisances dont on a parlé, l'immobilier, le transport, la pollution, le coût de la vie. Et elle croit beaucoup au retour des villes moyennes qui offrent un meilleur cadre de vie. Les salariés en rêvent, alors ça, je le savais, mais ce qu'elle m'a dit qui m'a plus fait surpris, elle me dit, mais surtout les entreprises en rêvent, car elles se retrouverait avec des salariés plus épanouis et donc plus productifs. Donc, tous dans le Larzac.
Donc, surtout, les prix vont monter dans les villes moyennes. Merci.
Ça fait des années qu'ils baissent. Donc, si enfin ça pouvait remonter.
Merci beaucoup, Axel. Ce soir, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, Varoc ?
Eh bien, écoute, en période de Festival de Cannes, toutes les chaînes se mettent à l'heure du 7e art. Hein. Arte, Canal+, et le service public diffusent des films qui ont marqué l'histoire du festival, comme ce soir, sur France 3, à 21h, avec le premier film de Guillaume Gallienne, sorti en 2013, Les garçons et Guillaume à table. C'est l'adaptation de son seul en scène remarquable, récit autobiographique, dans lequel il jouait tous les rôles. Et pour le film, le sociétaire de la Comédie française interprète Guillaume Gallienne, donc à tous les âges, et sa mère, une femme qui oscille entre élégance bourgeoise et vulgarité et qui fascine son fils. Une fascination qui pousse Guillaume à s'imaginer être une fille, celle que sa mère n'a jamais eue. Alors quand le père confond les voix de la mère et du fils, et bien ce dernier est heureux.
La tête qu'il a fait quand il a vu que c'était moi et pas ma mère, j'ai vu dans ses yeux qu'il avait compris que j'étais une fille.
Maman, ça y est, papa, il l'a compris. Non, fous le camp, mon vieux. Je veux dire, t'es assis sur mon oreiller. J'ai aucune envie de dormir avec l'odeur de tes pets. Alors va te coucher, ras-le-bol.
Bon ben, bonne nuit.
Ben, c'est ça, bonne nuit.
Le père va tenter de convaincre son fils d'affirmer sa virilité et ça passe forcément par le sport.
Donc, qu'est-ce que tu veux faire comme sport? C'est pas moi, du foot. De l'athlétisme, de la boxe, du judo. C'est pas moi, de la lutte gréco-romaine.
Du piano.
Voilà, et des années plus tard, devant son psy, bien cette injonction à la virilité continue de poursuivre Guillaume Gallienne.
Être obligé d'avoir les jambes écartées tout le temps et de marcher comme si on avait des couilles de taureau, je n'y arrive pas. Je veux dire, c'est hyper difficile d'être viril, non? Comme le sport, quelle angoisse!
Quelle angoisse. Ce film, c'est une pépite, une comédie enlevée, intelligente. C'est aussi une réflexion sur le genre. Guillaume Gallienne part en fait du préjugé que tout garçon efféminé est forcément homosexuel pour démontrer que tout ça est bien plus complexe. Il sera même obligé de faire son coming out d'hétérosexuel. Il renverse ainsi en fait les repères et dénonce de la plus belle des manières les actes et les mots homophobes. Long métrage par ailleurs rythmé par des scènes hilarantes. Je vous conseille celle face à Diane Kruger.
Ah, je me doutais que c'était votre scène préférée.
Dans le rôle du médecin chargé de relaxer l'anus ou encore Guillaume Gallienne en Sicile impératrice, ça ne pas manquer. C'est sur France 3 à 21h.
Merci beaucoup Eva Roque pour ces conseils. Merci Axel de Tarlé, Mickaël Darmon. L'équipe des 3 Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h-4.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
L'heure du passage d'antenne approche. L'équipe de Debout les Copains va céder la place à la matinale de Pierre de Villeneuve aujourd'hui. Mais d'abord, comme me veut la tradition, aussi injuste que séculaire du débrief, nous analyserons les grands moments de la matinale de la veille. Matinale riche en infos et en émotions.
Ils virent Sophie Davant hier, j'ai vu ça. Je me suis dit, putain, quand même, pas elle.
Non, mais où va le monde, Céline? Où va le monde? Le meilleur est à venir, le débrief de la matinale.
Bon réveil à tous, il est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
L'heure pour l'équipe de Debout les Copains de céder le micro à Pierre de Villeneuve pour la matinale d'Europe 1 a sonné, mais de même que la garde ne se rend pas sans combattre, nous ne nous rendons jamais sans un petit débrief. Un débrief que j'ouvrirai ce matin sur ces mots choc, mais que reste-t-il à The Voice? En effet, n'en déplaise à Nikos, force est de reconnaître que ce n'est plus dans le célèbre télécrochet de TF1 qu'explosent les voix de demain. Désormais, c'est ici, à Europe 1, que ça se passe. Et je ne fais pas ici référence à sa reprise, pourtant bouleversante, de Christophe, hier, hors antenne.
Je lui dirai les mots bleus, les lettres qu'on dit avec les yeux.
On ne connaît pas la suite, mais c'est beau.
Si j'étais vraiment perfide, je dirais on ne connaît pas la suite, mais on ne connaît pas le début non plus, puisque ce n'est pas les lettres, mais les mots qu'on dit avec les yeux. Mais passons. Alors certes, Nico s'imite merveilleusement Christophe.
Et je l'imite pendant l'accouplement.
Oui, non, mais ça ne nous regarde pas. Non, ça ne veut pas. Non, ça, non, merci. Quand je parle de découverte vocale, je veux bien sûr parler de l'événement d'hier, celui qu'évoquait encore toute chamboulée d'émotion Hélène Zélani.
À Bicker. Ce matin, David, il nous a fait un sketch, mais il a chanté tellement bien Johnny.
Alors oui, je sais que la finale de The Voice approche, que les équipes sont formées, mais nous devons en parler à Nikos. N'y a-t-il pas moyen d'effectuer un repêchage de dernière minute? Car je vous le dis, personne ne pouvait savoir que David Abiker, qui assure la revue de presse dans la matinale, était le sosie vocal de Johnny Hallyday. Dans quelques instants, nous entendrons un enregistrement pirate qui le prouve. Mais d'abord, un mot, quand je l'entends, du sosie vocal d'Elvis Presley.
As-tu ce pense pour moi? Oui, Pocho.
Laurent Cabrol, un présentateur météo pour lequel Nikos aurait pu choisir mardi de nombreux adjectifs. Sympathique, chaleureux, vivant, enjoué, mais précis, c'était peut-être pas le meilleur adjectif, ce jour-là en tout cas.
Lui, il change pas, il est toujours là, d'une régularité, d'une précision, Laurent Cabrol.
Vous avez dit précision, c'est en effet le mot qui correspond le plus à Lolo.
Nous allons vivre quelque chose de presque printanier côté température, et presque allez, fin d'hiver, début d'automne pour la couleur du ciel.
Allez, précision chirurgicale, en effet, Lolo. Enfin, les amis, chose promise, chose due.
En tes cheveux s'éteignent.
David Abiker, que je t'aime. C'est un peu ce que toute la rédaction d'Europe 1 s'est dit hier quand, aux alentours de 4h35, pour détendre l'atmosphère, David a laissé un instant la lecture des pages saumon du Figaro pour offrir à Johnny le plus beau des hommages, l'ultime hommage. J'ai dégainé mon dictaphone un peu tard, je m'en excuse, sur la fin de son solo, mais juste à temps pour immortaliser la voix et l'euphorie qui s'est alors emparée de la rédaction.
Une étincelle, c'est un mot d'amour, oui, pour allumer.
C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un document européen. Exceptionnel, Mathieu Noël, je vous encourage à en faire autant un jour. Je vais m'entraîner. Hein. On va bien rigoler. Merci les amis, à demain. Ça va Céline?
Oui, ça va très bien.
En forme.
Bonjour Pierre.
Vous allez pouvoir tenir encore 2 heures?
Bien sûr, évidemment.
Et bah 32. Et Laurent Cabrol alors? Dans tout ça?
Ah bah je vais bien moi.
Ça va Lise?
Après m'être fait habiller toujours pour l'hiver régulièrement, là, je vais vous aller déshabiller pour un petit été provisoire.
Oula. On se calme.
On peut essayer aujourd'hui de s'habiller légèrement. Alors, à la fin de la journée, lorsque on vous demandera quel temps il a fait, je pense que la plupart des Français diront « bien, il a fait bon ». Cette expression, je l'aime beaucoup parce que c'est ça. C'est « il a fait bon ». Et il fera, par exemple, cet après-midi, 15 degrés à Langres, 16 à Épinal, 17 à Caen, c'est un peu frais, mais 18 à Sedan, 18 à Colmar et Paris, 19 à Brest, à Nantes et Clermont-Ferrand, 20 degrés à Marseille, 23 à Toulouse, 24 à Auch et Ajaccio, où les températures remontent, vous voyez, après la neige d'hier sur les les montagnes, 25 à Cahors et à Montauban. Voilà pour les températures. Les températures ni trop chaudes, ni trop fraîches. C'est vraiment ce qu'il nous faut, avec un petit changement de temps, mais tout petit pour l'instant, à peine perceptible. Les premiers nuages d'altitude qui vont arriver ce matin sur la Bretagne, la Loire-Atlantique et la Vendée. Et dans l'après-midi, sur la basse Normandie, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le Béarn. Mais vraiment, c'est très peu de choses. Et ensuite, même dans ces régions, un brin de luminosité se manifestera. Nous verrons tout à l'heure que sur l'ensemble de la France, certes, il y aura des petits passages nuageux, mais c'est encore sympa. Profitons-en. Demain, ça change.
Merci Laurent Cabrol.
Le prochain point météo, ce sera juste avant le journal de 7h30.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.